Alors j'ai intitulé ma communication « L'islam, quel défi pour l'école entre laïcité et sensibilité religieuse au pluriel des élèves, tension, ambivalence, évolution ». On va revoir, vous allez revoir dans cette communication des apports que vous avez déjà entendus. Et ça ne va pas être totalement nouveau, si j'en juge, uniquement parce que j'ai entendu ce matin, qui n'était qu'une partie de ce que vous-même avez déjà eu l'occasion de discuter. On a vu ce matin une approche philosophique de la laïcité, avec Pierre Kahn, puis une approche de psychologie sociale qui nous a montré comment cette approche philosophique était prenait place, s'enracinait en quelque sorte dans des débats, dans des conflits qui ont pour siège la société et puis le gouvernement, hein, les pouvoirs publics. Et on a discuté de savoir qui fait quoi. Est-ce que les évolutions qu'on observe sont liées aux initiatives que prennent les acteurs de la scène centrale dans notre pays, les médias, les acteurs politiques, ou est-ce que eux-mêmes, sentant l'évolution des sensibilités des personnes, agissent comme ils agissent? Et donc on a discuté pour savoir qui fait quoi. Et moi je vais avoir ici une approche de sociologie politique sur cette question, donc laïcité, préjugés, et appliquée à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans l'école et comment ces questions de laïcité et de différences culturelles travaillent éventuellement dans l'école. Ce sera de façon trop superficielle, sans aucun doute. J'espère que nous aurons l'occasion du coup d'ouvrir le débat sur cette question. Ce qui change aussi par rapport aux apports de ce matin, c'est que je positionne l'islam en premier, c'est-à-dire que, à mon avis, d'un point de vue de sciences politiques, si nous parlons autant de laïcité actuellement depuis 25 ans au moins, plus même, dans ce pays, c'est parce que nous en faisons une arme pour combattre une certaine visibilité de l'islam, voire une certaine présence de l'islam parmi nous. La laïcité, c'est un thème finalement qui a aussi cet effet de combattre. Hein. À partir de quoi il y a des réactions variées, mais la question ethnique et la question religieuse, elle est là quand on parle d'islam, de laïcité. En tout cas, c'est le point de vue que je soutiens. Et sur lequel va s'appuyer cette proposition, avec un plan en trois points qui s'articule sur l'idée que il y a eu une évolution depuis 25 ans, et là je commence en 2002, donc, un petit peu plus récemment, mais avant il y avait le temps qui avait suivi l'intervention du Conseil d'État dont nous avons parlé ce matin et le premier circulaire de l'éducation nationale sur cette question en 1989. Il y a eu des changements et c'est autour de ça que tourne ce plan. Des tensions exacerbées en 2002-2012, le moment de la nouvelle laïcité. Un certain aggiornamento depuis 2012 et puis un impact des attentats et de la mobilisation, de la grande mobilisation pour les valeurs impulsée par le ministère de l'Éducation en 2015. Je suis gênée parce que je suis sûre que vous avez parlé de ça déjà hier précisément. Vous avez dû, je pense, avec les deux exposés de Fabrice Dume et de Benoît Falaise, évoquer déjà des questions relatives à ces changements, non ? Bon, on verra. De toute façon, ça doit se recroiser. Il n'y a pas de problème de principe sur ces redites. Hein. C'est d'une certaine façon entrer par des perspectives différentes dans les mêmes problèmes. Des tensions exacerbées entre 2002 et 2010. On a évoqué ce matin la question de 2004, qu'est-ce qui s'est passé? On voit sur la courbe que présentait Serge Guimond tout à l'heure, on voit l'évolution de l'inquiétude dans l'opinion publique à propos des signes visibles de la religion musulmane, la courbe qui monte et qui passe de 55 à 85% des gens inquiets et qui ne sont pas d'accord avec cela. Est-ce que c'est le débat politique qui a produit ça? Est-ce qu'à l'inverse, l'inquiétude des gens était là avant? Du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait des sciences politiques, il n'y a aucun doute que c'est vraiment le débat politique qui a produit la transformation de l'opinion publique. On regarde les sondages, on regarde ce qui se passait avant dans l'école et puis ce qui s'est passé après. Il n'y a aucun doute. Avant cela, dans la décennie, un peu plus que 10 ans, qui a suivi l'avis du Conseil d'État, puis la circulaire Jospin, avec les choses qui se sont passées dans cette décennie, il s'est passé des choses, mais au total, à la fin de cette décennie-là, les choses étaient calmées. On ne mettait plus en exergue le fait que certaines filles portent des foulards. Il y en avait quelques centaines, apparemment. C'est le chiffre que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, avait annoncé devant la mission parlementaire Debré, qui s'occupait de la laïcité à l'école. Un peu plus de 1000, 1200 filles qui auraient porté des foulards, mais à l'époque on les comptait pas puisque c'était pas interdit de les porter. Et on est vraiment dans la dynamique dont parlait Serge ce matin, c'était pas interdit, donc ça posait pas tellement de problèmes. Le ministère avait mis en place des médiations, vous vous souvenez de la médiatrice Hanifa Chérifi, et ces médiations marchaient à peu près bien, on comptait sur les doigts d'une seule main les affaires qui aboutissaient devant les tribunaux. Il y en avait eu une en 2003, l'affaire du lycée Lamartinière, mais très peu de choses. Puis après, à la rentrée 2003, il y a eu l'affaire du lycée avec les filles Lévy, mais peu de choses, en fait. Les choses étaient calmées et certains observateurs parlaient même d'apprentissage par les institutions républicaines du pluralisme et de la faire avec la religiosité des citoyens, des membres de la société. Et c'est vraiment par une entreprise politique organisée, très soigneusement mise en place depuis 2002 que les choses ont changé, qu'on est arrivé à une loi, puis à la circulaire qui a décidé de l'application de cette loi. Dans les choses qui ont fait changer, donc l'entreprise politique mérite d'être décrite dans les détails, c'est bien entendu pas ce qu'on va faire, mais il y a eu un moment, une impulsion importante qui a été donnée par l'apparition d'un rapport, le rapport de François Barouin, un homme politique jeune, ambitieux, proche du chef de l'État Jacques Chirac, intitulé « Pour une nouvelle laïcité ». Et c'est lui qui sculpte le nom de cette nouvelle version de la laïcité française, une nouvelle laïcité. Et il développe donc une laïcité dont on va voir tout à l'heure dans la suite du diaporama comment elle se combine. Mais vous l'avez déjà vu, ça va pas être surprenant. Sauf que le savoir que ça date de 2002, c'est récent, 2002, 2003, le rapport Barouin, puis le rapport Stasi fin 2003. C'est à cette période-là que se dessinent les nouvelles doctrines néo-républicaines ou substantialistes ou substantielles qui vont définir une autre version des principes républicains en fonction donc de la nouvelle situation créée. Les tensions, elles ont eu lieu par rapport à la laïcité, on va le voir, mais l'idée que l'islam était une menace était là depuis plus longtemps. La révolution iranienne, c'est 1979. Les attentats à Paris, il y en a au milieu des années 80 et puis au milieu des années 90, etc. Le contexte international s'unissait avec certains problèmes internes, la violence des jeunes, etc., pour se dire que l'islam était une menace pour les institutions. Et je vous ai sorti ce petit alinéa qu'on trouve dans le rapport Stasi. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous pouvez le lire au fond ? À peu près. Qui est assez intéressant pour montrer de quel genre est cette menace. Est-ce qu'elle est factuelle, empirique, vérifiée ? Est-ce qu'elle est fantasmagorique et l'objet finalement d'une rumeur ? On voit très bien sur ce paragraphe comment on organise la rumeur pour faire croire qu'elle est vraie. Ça commence comme ça. Les agissements attentatoires à la laïcité sont de plus en plus nombreux, en particulier dans l'espace public. Il ne s'agit certes pas de dramatiser, mais c'est le devoir de tous ceux qui exercent des responsabilités dans notre pays d'être clairvoyants. Des agissements attentatoires à la laïcité, c'est grave, hein ? Des agissements attentatoires, ça veut dire, comme la laïcité est un pilier de nos institutions, des agissements attentatoires à la laïcité, c'est grave. Et pourtant, il ne s'agit pas de dramatiser. Ah, ça, c'est bizarre. Eh oui, il ne s'agit pas de dramatiser. Donc, on se dit, mais de quels attentats il s'agit ? Mais il s'agit du port du voile. Il s'agit du port du voile. Il s'agit du port du voile dans les rues. Mais est-ce que c'est un agissement attentatoire à la laïcité ? Mais non, c'est protégé par la laïcité. C'est ce que a rappelé le Conseil d'État dans son avis de 1989, puis c'est ce que dit notre droit public. Notre droit public donne aux membres de notre société le droit d'avoir une religion et de la manifester individuellement et collectivement, en privé et en public. C'est l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que nous avons accepté dans notre propre droit. Nous avons le droit d'avoir une religion et de la montrer. Et quand nous montrons notre religion dans la rue, nous n'attentons pas à la laïcité. Nous la respectons. Et la laïcité nous protège dans ce droit que nous avons d'avoir une religion et de la manifester. Par conséquent, pas d'agissement attentatoire. Le reste est à l'avenant. Les raisons de la dégradation de la situation n'ont pas besoin d'être rappelées. Donc, il y a une dégradation de la situation, puisque les raisons n'ont pas besoin d'être rappelées. Mais en quoi consiste cette dégradation de la situation ? C'est les agissements attentatoires. Mais justement, ils ne sont pas attentatoires. Voyez le truc ? Mais voilà, il y a des raisons à cette dégradation. Et elles n'ont pas besoin d'être rappelées, rappelons-les quand même. Les difficultés de l'intégration de ceux qui sont arrivés sur le territoire national au cours de ces dernières décennies. Le mot n'est pas dit, mais c'est les immigrés. Ils sont arrivés sur le territoire national. Notre nation est attaquée. Les conditions de vie de nombreuses banlieues dans nos villes, le chômage, le sentiment éprouvé par beaucoup de ceux qui habitent notre territoire d'être l'objet de discrimination. Et voilà les discriminations. Mais subjectives, ils ont le sentiment d'être. Ah ben, on ne va pas trouver dans le rapport Stasi autre chose que le sentiment. On trouvera même l'idée d'autodiscrimination. Ce sentiment, en fait, il le crée par les pratiques qu'il développe. Il s'autodiscrimine. Les filles qui portent le voile, elles sont qualifiées de ayant un comportement d'autodiscrimination ailleurs dans le rapport. Donc ils ont ce sentiment d'être discriminés, d'être rejetés hors de la communauté nationale. Et cela explique qu'ils prêtent une oreille bienveillante à ceux qui les incitent à combattre ce que nous appelons les valeurs de la République. Cela explique, on pourrait se dire, puisque ça, ce qui est de l'autre côté de l'explication, c'est un fait. En général, ce qu'on cherche à expliquer, c'est un fait. Mais ici, non, c'est une simple probabilité. Ils devraient avoir envie d'écouter ceux qui les incitent à combattre. Et là, même chose que tout à l'heure, s'ils ont envie de les écouter, mais alors c'est qu'ils existent, c'est ceux qui les incitent à combattre. Ils ne sont pas nommés pour cause. Que sait-on d'eux dans le rapport ? Rien d'autre. Il y a des gens qui incitent à combattre les jeunes contre donc les valeurs de la République. Et ce qu'on voit et la façon dont on voit qu'en réalité il n'y a aucun fait sur lequel ils puissent s'appuyer pour attester ce qu'ils disent, c'est ceci, il faut être lucide. C'est simplement la réflexion qui nous amène à se dire, mais oui, il existe cela. Des groupes extrémistes sont à l'œuvre dans notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. Et alors là, même chose, on se dit, mais si ces groupes extrémistes existent, testent la résistance de la République, mais c'est très grave, poussent les jeunes à rejeter la France, mais ces gens-là ne sont pas en prison. Que font les renseignements généraux? Ils laissent des groupes extrémistes à l'œuvre dans nos quartiers pour détourner les jeunes et les pousser à rejeter la France. On voit tout de suite, là maintenant, on imaginerait des attentats. À l'époque, on n'imagine pas, mais on voit une espèce de cheval de Troie qui est là tout prêt à sortir dans nos banlieues et de là à prendre d'assaut la République en quelque sorte. Je ne vais pas développer davantage, vous voyez, ce paragraphe est entièrement fabriqué de façon rhétorique. On peut très facilement déconstruire la façon dont il est fait et voir sur quoi repose l'effet qu'il produit. Quand on le lit la première fois et qu'on ne fait pas attention, on se dit « Oh là, zut, c'est grave, effectivement ». Et ce paragraphe prend sa place dans le début du rapport. Hein. Il campe le climat. Il campe la situation, et c'est une situation alarmante. On est alarmé quand on lit un paragraphe comme ça. Et là, je vous rappelle à tout ce qu'a dit Serge ce matin. Quand on est alarmé, alors on développe des peurs, on développe de nouvelles attitudes, et en l'occurrence, on développe des préjugés. Des préjugés à l'encontre des jeunes musulmans, notamment ici. À côté de cela, je voudrais, et c'était également à l'époque soulevé, je cite là un texte de 97, je voudrais vous faire réfléchir à ce qu'on peut appeler l'islamophobie. Je sais bien, et vous savez bien à quel point le terme est contesté, et à quel point il est passionnellement défendu par certains et rejeté vigoureusement par d'autres dont nous parlions ce matin. Si on regarde le travail qu'a fait le Ready Made Trust en Angleterre en 97, on trouve quand même là des éléments très intéressants pour des pédagogues, je crois. Le Ready Made Trust a fait travailler une commission de travail dans laquelle, comme toujours en Angleterre, il y avait des musulmans, parce qu'il n'y a que nous en France, mais maintenant je crois que c'est fini quand même, que nous en France qui puissions parler des problèmes des musulmans sans musulmans. C'est ce qu'a fait la commission Stasi. Hein. Comme nous musulmans, il y avait Harkoun dans la commission. Donc, le Ready Made Trust, lui, voulant parler du malaise des musulmans et du malaise des non-musulmans, et essayer de travailler sur le contexte, dans le sens de vérifier s'il y a de l'islamophobie ou pas, c'est eux qui ont d'ailleurs proposé ce mot, islamophobie, même si ils n'en ont pas été les créateurs, puisque ça remonte au 19e siècle. Ils ont mis en évidence ce qu'ils appellent des traits critiques, qui oppose une vision fermée et une vision ouverte de l'islam. Il se trouve, moi je trouve ça c'est très précieux, parce qu'il se trouve que la vision hostile de l'islam, une vision typiquement orientaliste et typiquement majoritaire, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire majoritaire, ceux qui sont à la source du pouvoir dans notre société, ici des blancs non musulmans, et l'autre vision de l'islam, c'est celle de l'islam vécu. Si vous avez des amis musulmans, et il doit y avoir des gens qui se reconnaissent une culture musulmane dans la salle, c'est ça, c'est comme ça que quand on est musulman, on voit l'islam. L'islam est vu comme monolithique, statique et sans adaptation à la réalité, rigide. Il ne peut pas bouger l'islam, il n'a pas d'historicité. Les musulmans savent à quel point l'islam est divers, avec des tas de débats internes. La vision majoritaire de l'islam, la vision menaçante de l'islam, comme hostile à la République, donc engagée dans un bras de fer à l'égard de la République, le voit comme sans valeur, sans but commun avec les autres cultures, et pas du tout influencé par ces autres cultures. L'islam ici est un islam français, vit parmi les Français, avec des Français qui sont des musulmans, donc il est forcément imprégné. Ben non, non, il est vu comme coupé de cela. Alors que les musulmans, eux, le voient comme en interdépendance avec les autres religions, les autres cultures, influencés par les débats qui s'y mènent et pouvant les enrichir. Il est vu comme inférieur, barbare, irrationnel, primitif, sexiste. C'est pas la peine de développer tellement c'est tout à fait ce qui se passe. alors que les musulmans ont tendance à le voir comme digne de respect comme les autres religions. Différent peut-être, mais pas manquant de ces éléments importants liés aux valeurs humaines. La suite de la deuxième diapo suit l'énoncé des huit traits critiques. On le voit comme un ennemi, violent, agressif, menaçant, enclin au terrorisme, engagé dans un conflit de civilisation, et non pas un partenaire actuel ou potentiel pour des actions en commun visant à résoudre les problèmes communs. Or, quand on va dans les banlieues, c'est ce qu'on voit. Dans les associations, c'est ce qu'on voit. Des gens qui arrivent et qui disent « voilà, je suis là et j'ai envie de travailler avec vous pour résoudre les problèmes communs de nos enfants ». Manipulateur, une idéologie politique cherchant à l'emporter militairement ou politiquement, et non pas une foi religieuse authentique, pratiquée sincèrement par les fidèles. Cela va de pair avec un certain anticléricalisme qui est quand même assez fortement représenté dans notre société, et même un athéisme militant, le fait d'être anti-religieux. La position majoritaire, je ne sais pas ce que vous pensez, mais il me semble que la position majoritaire dans notre société, c'est carrément la détestation des religions, le fait de prendre la religion, les religions, même non musulmanes, hein, comme des déviances, en fait, des problèmes pour une société évoluée, des sortes de résidus d'un temps ancien. Les religions sont véritablement décriées. Et c'est un vrai problème pédagogique, on y viendra tout à l'heure, d'accepter la religiosité des élèves et de faire quelque chose avec quand on a envie aussi de leur dire « écoutez, arrêtez ». Rejetant systématiquement les critiques qu'en font les Occidentaux au lieu de les prendre en compte en les débattant. Justifiant les principes, les pratiques discriminatoires à l'encontre des musulmans. L'islam est tellement mauvais que c'est normal de discriminer. Je pense que ça renvoie à ce que vous avez vu en premier exposé de cette session et leur exclusion de la vie courante, au lieu que les efforts pour lutter contre les discriminations et l'exclusion ne doivent pas être affectés par les désaccords avec l'islam. C'est ce que Myriam Matari a travaillé avec vous, je crois. Et finalement, voir l'hostilité envers l'islam comme naturelle et normale, au lieu de soumettre à la critique les visions critiques de l'islam, de peur qu'elles ne soient injustes et inexactes. À mon avis, d'un point de vue de formation et d'un point de vue pédagogique, on peut s'appuyer sur ces traits pour concevoir des séquences de façon assez intéressante, avec des formés jeunes et des formés moins jeunes, avec des adultes aussi. Je crois que là, il y a vraiment, on voit vraiment mis en balance la vision interne, telle que les gens se voient, et ça peut empiriquement se tester, hein, en demandant aux gens comment ils vivent leur islam. Et puis la vision externe de l'islam comme démoniaque, finalement cherchant à attaquer nos principes et nos institutions. Cette passion autour de l'islam, elle a pris dans la décennie 2002-2012, hein, c'est-à-dire la décennie où l'UMP a eu l'ensemble des pouvoirs, d'abord avec la deuxième présidence de Jacques Chirac et puis avec la présidence de Sarkozy, cette incrimination de l'islam a pris des côtés fous. Moi, j'ai eu l'occasion d'une véritable hystérie qu'on voit s'intensifier après 2004. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à ce que pensaient certains socialistes du genre Martine Aubry et autres qui ont voté la loi de 2004 en se disant « bon, on vote et puis on passe à autre chose ». On a voté, on n'est pas passé à autre chose, ça n'a fait qu'accentuer la diabolisation de l'islam et la stigmatisation de l'islam et la montée des préjugés. Et quand on regarde la présidence de Nicolas Sarkozy, j'ai eu à le faire pour faire un point sur les évolutions, c'est absolument fantastique, c'est tous les ans. Et que des entreprises de dénigrement de l'islam se développent, impliquant non seulement les médias mais la classe politique, avec différentes dispositions votées ou bien discutées, etc. Le comble ayant été atteint au moment de la campagne électorale présidentielle, hein, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de musulmans ont voté pour l'actuel président de la République. Tension exacerbée également au niveau de la laïcité, j'en ai déjà dit un mot, et vous l'avez beaucoup travaillé déjà. Je rappelle simplement, donc en allant vite, la doctrine du Conseil d'État, très claire, neutralité de l'État et des agents publics, et de l'école et des programmes scolaires, liberté des individus, y compris les élèves. Les élèves étant considérés non pas comme des cerveaux et des élèves qui ne sont pas des enfants, comme on rappelait tout à l'heure dans la théorie, dans une certaine théorie républicaine, mais des individus. À ce moment-là, le Conseil d'État, avec David Kessler, j'ai appris que c'était un agrégé de philosophie, je ne le savais pas, j'avais remarqué, il avait développé des arguments dans différentes revues en disant, des arguments pédagogiques, en disant faut apprendre aux profs à considérer leurs élèves comme des personnes et des sujets de droit. Et donc, liberté des élèves, pris comme des personnes, sujets de droit. Et j'ai relevé pour vous cette définition dans le dictionnaire de droit des religions, sous la plume de Verling. Sur le plan du droit, le terme de laïcité désigne essentiellement la neutralité religieuse de l'État. On y inclut aussi l'absence de discrimination, donc l'égalité, et la liberté en matière religieuse, en relation avec la Convention européenne. Mais par contre, le concept juridique de laïcité n'inclut pas, contrairement à ce que pourrait laisser penser le discours politique, un prétendu principe d'exclusion de la religion hors de la sphère publique, ni ne postule l'indifférence, l'ignorance ou l'incompétence de l'État à l'égard des religions. On y reviendra si vous voulez, hein, mais pas d'exclusion de la religion hors de la sphère publique, ni non plus indifférence de l'État, ignorance ou incompétence à l'égard des religions. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a un bureau des cultes dans notre ministère de l'Intérieur qui s'occupe des religions. Les religions sont connues par les agents publics et c'est même pour ça que l'État français s'est mêlé de faire quelque chose que les autres États européens ne se sont jamais mêlés de faire, introduire, mettre en place une instance d'interlocution des représentants de l'islam en France, hein, appelée Conseil français du culte musulman, avec les déclinaisons régionales, conseils régionaux du culte musulman. Et ça, c'est l'État français, donc sous l'égide du ministère de l'Intérieur, qui a mis ça en place, on pourrait dire, avec une certaine interprétation relativement souple, hein, du principe de séparation. Parce qu'on n'a pas d'incompétence ni d'ignorance, mais on a quand même en principe la séparation des églises et de l'État. À côté de cela, la nouvelle laïcité dont on parlait tout à l'heure, j'en ai pris juste cette petite définition dans le rapport Stasi, qui montre comment cette nouvelle laïcité combine différents fils qui ont alimenté la réflexion sur la laïcité dans le pays. À propos de ces fils, petite parenthèse, nous avons parlé ce matin de Jean Bobéreau. Je vous conseille de lire son livre consacré, je pense que ça s'appelle « Les sept laïcités françaises », hein, parce qu'il écrit un livre par an. Hein, donc c'est assez difficile de suivre tous les livres de Bobéreau. Mais bon, la laïcité falsifiée, la laïcité multiculturelle, etc., ou interculturelle, mais... Il y a ce livre sur les sept laïcités françaises qui est très intéressant parce que il refait une perspective historique sur les conflits autour de la laïcité et il montre comment les conflits d'aujourd'hui reproduisent dans une certaine mesure ceux d'avant mais sont nouveaux aussi. Et donc il y avait quatre laïcités au départ, il y en a sept maintenant, les anciennes dimension de la laïcité, les dimensions interprétatives de la laïcité sont toujours présentes, mais il y en a d'autres. Et de telle sorte que le clivage aujourd'hui est une dichotomie. On peut dire à la fois qu'il y a sept laïcités, mais que le clivage est dichotomique aujourd'hui. Entre la nouvelle laïcité, donc la laïcité qu'on a dit aussi substantielle, qu'on a dit aussi... qu'on pourrait dire identitaire, on l'a dit, alors là c'est plus critique comme appellatif, hein, une laïcité de type identitaire, nationaliste identitaire ou populiste, ou comme voilà, opposée à la laïcité procédurale, qui est la laïcité de droit. Alors voilà ce que dit donc le rapport Stasi à ce sujet, pour définir, et vous allez voir que c'est une curieuse définition parce qu'elle se termine par un etc. La laïcité est le produit d'une alchimie entre une histoire, une philosophie politique et une éthique personnelle. Elle repose sur un équilibre de droits et d'exigences. Le principe laïque est conçu comme la garantie de l'autonomie et la liberté de chacun d'être lui-même Hein, vous retrouvez une ligne de la philosophie Kinsler, Penarhuis. Il suppose une attitude intellectuelle dynamique à l'opposé de la posture paresseuse de la simple neutralité. Là, petite pique à l'adresse des juges. C'est un problème qui va au-delà de la question spirituelle et religieuse pour concerner la société dans toutes ses composantes. La laïcité touche ainsi à l'identité nationale, à la cohésion du corps social, à l'égalité entre l'homme et la femme, à l'éducation, etc. La laïcité est donc le résumé de l'identité nationale. Comme disait le rapport Barouin, c'est la colonne vertébrale de l'identité nationale. Du fait de cette tension entre laïcité de droit, dont le Conseil d'État ne s'est pas écarté pendant toute cette période, tout en validant la loi de 2004 avec son intitulé « En application du principe de laïcité ». Il a laissé passer cet intitulé-là. L'habitude du Conseil d'État n'est pas de s'opposer au corps législatif. Hein. Et donc, il a laissé passer l'intitulé alors qu'il est falsifié, manifestement. Il est tendancieux et justement, il a fait beaucoup de mal ensuite, parce qu'on a dit, mais puisque cette loi applique la laïcité et qu'elle consiste à interdire, alors appliquer la laïcité, c'est interdire. Et là-dessus, les juges disaient, mais non, appliquer la laïcité, c'est au contraire protéger la liberté d'expression. Et nous, en tant qu'agents publics, vous, par rapport à vos pratiques de classe et de formation, vous étiez tenus de dire cela. La laïcité protège la liberté d'expression. Mais vous étiez tenus aussi d'appliquer la loi. Donc, pour protéger la liberté d'expression, commence déjà par dissimuler ton expression. Il y a là des paradoxes et des contradictions que les uns et les autres se sont entraînés à traiter, à dépasser. Moi d'ailleurs aussi, puisque j'ai parfois accepté de travailler pour le rectorat de mon académie et dans ce cas-là, évidemment, je me dispense de faire des critiques précises sur la loi de 2004, puisque tout le monde est censé l'appliquer en comprenant pourquoi elle s'applique. En tout cas, des tensions exacerbées entre 2002 et 2012, regardez du coup ce que cela a produit comme va-et-vient du point de vue de l'interprétation normative de la laïcité. On commence en 1989, le Conseil d'État déclare que le droit laïque protège le port du foulard islamique par les élèves, et j'extrais cette citation de son avis, « dans la mesure où ce port constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation des croyances religieuses protégées par la laïcité. » Ça, c'était l'avis du Conseil d'État. Le ministre Lionel Jospin suit à peu près cet avis, mais à peu près seulement, puisqu'il déclare qu'il faut pratiquer un dialogue dans l'espoir qu'il soit mis fin au port des signes. C'est-à-dire que c'est une façon de relayer l'avis du Conseil d'État tout en y mettant des bémols assez forts quand même. 3, un autre ministre demande de l'interdire, toujours au nom de la laïcité, mais cette fois en couplant avec la tradition nationale, et c'était la circulaire Bérou. En septembre 94, il y avait une première circulaire Bérou en septembre 93, où il disait « Ok, le port du voile est autorisé dans certaines conditions ». Puis, en 2004, dans son rapport sur un siècle de laïcité, le Conseil d'État a réaffirmé sa doctrine libérale. La laïcité protège la liberté d'avoir une religion et de la manifester. Mais en même temps, il validait, 5, cette loi prise en application du principe de laïcité, avec un ministre qui précisait que l'interdiction ne s'appliquait qu'aux élèves et pas aux parents. Mais 6, un autre ministre, Luc Chatel, étendre l'interdiction aux parents dans sa fameuse circulaire de rentrée de 2012. Et puis, il a été suivi par un tribunal administratif qui était gêné, mais comme le ministre avait demandé l'interdiction, ou du moins décrété qu'il était possible d'interdire aux parents accompagnant les sorties scolaires de porter des signes de leur appartenance, un tribunal administratif a donné raison au ministère, ne l'a pas sanctionné, ce qui est souvent effectivement ce que font les tribunaux administratifs, mais quand même, ensuite, encore, un autre avis du Conseil d'État, saisi à la demande du défenseur des droits, hein, qu'il donne son avis dans cette question, et il a enfin été suivi du jugement conforme des autres tribunaux, puis d'un entérinement par le ministère. Le ministère a fini par reconnaître que il est légitime pour les mamans, puisque c'est d'elles qu'il s'agit essentiellement, d'accompagner des sorties, même si elles portent des signes de leur appartenance religieuse, dans la mesure où leur comportement ne porte pas, ne crée pas de problème. Et là, c'est toujours le directeur de l'école, hein, puisque c'est essentiellement au niveau primaire que ça se pose, c'est toujours le directeur de l'école, avec son appui, l'inspecteur, la circonscription, qui est le responsable et qui doit trancher. Il n'est pas impossible d'empêcher une femme portant foulard d'accompagner une sortie, mais ça n'est pas parce qu'elle porte le foulard qu'elle est empêchée. C'est parce que son comportement n'est pas conforme à celui qu'on peut attendre d'une accompagnatrice de sortie scolaire. Voilà. Je vous invite à regarder en ligne le livret laïcité qui a été envoyé dans toutes les circonscriptions et aux chefs d'établissement des collèges et des lycées. Dans ce livret laïcité, vous avez une quinzaine de pages consacrées à la jurisprudence de la laïcité, en particulier scolaire, et vous avez ce point qui est rappelé très clairement. Donc là, grâce à ce livret, vous êtes tranquille du point de vue du droit de la laïcité tel qu'il s'applique à l'école. J'ajoute aussi, alors, troisième série de diapos pour ce point des tensions, les formes pédagogiques. Il faut penser aussi à l'historicité propre de l'école quand on essaie de comprendre le défi que pose l'islam et la religiosité des élèves par rapport à ce qui se passe dans l'école. Si on a une pédagogie transmissive avec un programme que l'enseignant fait, toutes les réactions des élèves sont gênantes. Et les réactions des élèves autour de ce qu'ils sont et de leur religion sont encore plus gênantes que les autres, puisque la religion, on a tendance à penser qu'elle n'a pas sa place dans une école laïque. Donc dans une perspective où la pédagogie dominante est transmissive et où on n'a pas tellement de formation pédagogique à l'époque, puis même carrément une suppression des IUFM à partir de 2010, où l'élève, comme le dit Florence Juste-Esprairie, et incarne la figure de l'altérité dans l'école pour l'enseignant, c'est-à-dire la figure qui fait peur, en fait, qui suscite du malaise chez les enseignants. Elle a dans son livre de très belles analyses, hein, sur la façon dont l'élève incarne l'altérité pour l'enseignant. Et dans lequel, donc, l'enseignement du fait religieux depuis 2002 est préconisé, mais en même temps la religiosité des élèves est déniée, on a tous les ingrédients d'une difficulté autour de la pédagogie dès lors qu'il s'agit de religion et notamment d'islam. Mais néanmoins, les choses ont évolué dans cette période. Et en particulier, je vous livre ça à titre exploratoire, j'ai fait une très petite enquête, mais je pense que ça peut se défendre. En particulier, la loi de 2005, qui, en invoquant les résultats de PISA, a introduit des mesures pour grignoter l'individualisme enseignant, le quant à soi enseignant, en particulier le conseil pédagogique, en particulier le socle commun. Cette loi de 2005 a progressivement fait changer les choses dans les établissements, en tout cas les collèges. On a vu au départ le conseil pédagogique boycotté et le socle commun appliqué à minima, où les gens se mettaient d'accord du bout des lèvres pour faire des évaluations, etc. Peu à peu, dans les établissements, semble-t-il, le conseil pédagogique, qui s'appelle comme cela ou qui s'appelle autrement, mais est devenu une réalité. Les chefs d'établissement se sont débrouillés pour faire qu'ils vivent. Certains en y mettant à peu près tout le monde, mais en organisant en tout cas des moments où les enseignants et le corps pédagogique se retrouvent pour discuter de la façon dont il s'y prend avec les élèves. De même, le socle commun a fini par avoir une certaine réalité aussi, et maintenant il est, comme vous le savez, légalisé complètement par la dernière loi. Autrement dit, on a vu dans l'école, peu à peu à cette période-là, à l'encontre de cette passion anti-islam et sur la laïcité version nouvelle laïcité identitaire, à l'encontre de cela, des cas de plus en plus fréquents dans l'école où des projets avaient lieu, des façons nouvelles de travailler se développaient, des formes de collectifs professionnels dont je pense peut-être Françoise Lantôme vous a parlé. j'en sais rien, mais en tout cas qui ont entamé ce que j'appelle l'éthos enseignant majoritaire, c'est-à-dire l'enseignant qui fait son cours et qui ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe dans la classe à côté. Depuis 2012, un certain apaisement, je dirais. Un certain apaisement. Ça n'est pas facile hein, de trouver des éléments qui caractérisent l'évolution depuis 2012, tellement le gouvernement a une politique difficile à cerner. Mais néanmoins, si on cherche à voir et si on cherche à faire des balances entre tel ou tel aspect de la politique gouvernementale, on s'aperçoit qu'il y a des évolutions qui sont quand même marquées par rapport à l'hystérie. J'ai employé le mot et je le redis parce que c'était vraiment fou. Je me souviens de l'histoire du halal, vous savez, quand depuis 2012, quand on a appris que nous mangions halal sans le vouloir et que les médias se sont emparés du problème, hein, c'était hallucinant, quoi. Vu depuis les yeux, moi, par mon travail, je suis amené à voir les choses par les yeux de jeunes musulmans. C'était très violent. C'est très violent. On en rit entre nous, hein, mais c'est très violent pour les gens qui vivent ça, qui se sentent sans arrêt montrés du doigt et humiliés. C'est très humiliant. En tout cas, donc, depuis 2012, un certain apaisement avec la révision de la politique d'intégration, avec l'idée de que j'emprunte un nilufer gueuleux. C'est pas du tout une ministre, c'est une chercheuse, mais dans son livre concernant les musulmans en Europe et la façon dont l'islam est l'objet de débats publics dans toute l'Europe, elle dit un peu partout, il s'agit en fait de passer du collage au tissage. Je trouvais que c'était joli comme expression, passer du collage au tissage. On a eu des immigrés parmi nous, comme le disait encore la diapo dont je parlais tout à l'heure du rapport Stasi, il s'agit maintenant de tisser. C'est plus des immigrés. Nous sommes à la troisième génération chez nous en France, à la quatrième. C'est plus des immigrés, loin s'en faut, c'est des membres. Mais ils sont encore vus comme collés, comme pas d'ici, comme retourne chez toi, etc. Donc, ici en France, on est en laïcité, tu fais pas ça, etc. On rappelle sans arrêt encore à ces concitoyens qui ne sont pas des concitoyens tout à fait comme les autres. Or, l'enjeu pour les gouvernements et les États, c'est vraiment de passer du collage au tissage. Et tant qu'on ne sera pas dans un tissage, dans une nouvelle tissu social, dans une nouvelle consistance du tissu social faisant sa place à l'islam, on peut s'attendre à avoir de graves problèmes. La nouvelle définition de l'intégration que propose Thierry Thuot dans son rapport, commandité par le Matignon en 2013, c'est la suivante. L'intégration est le phénomène social par lequel se dissipe le rôle majeur joué par l'origine, réelle ou supposée, dans les difficultés sociales rencontrées par une personne. C'est une définition très intéressante. Vous voyez qu'il n'y est plus question de culture. L'intégration, ce n'est pas l'assimilation. Le problème qu'on a avec l'intégration, ce n'est pas les différences culturelles. Nous dit Thierry Thuot, qui est un conseiller d'État, hein, ancien directeur du FAS. Donc le problème de l'intégration n'est pas la différence culturelle et la difficulté qu'on a avec l'intégration n'est pas la culture ou la religion musulmane. C'est le problème qui vient du fait que l'origine réelle ou supposée des gens contribue à leurs difficultés sociales. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire la discrimination ethnique. Le problème de l'intégration, c'est la discrimination ethnique. C'est ce qu'avait dit Martine Aubry en introduisant le concept de discrimination dans notre discours public. Elle avait dit, les jeunes issus de l'immigration n'ont pas de problème d'intégration au sens propre du terme, ils ont des problèmes de discrimination. On y revient après 15 ans. Après 15 ans, on y revient, et là, de façon plus claire, en disant « ne parlons plus d'intégration, c'est blessant pour les gens, on va parler de société inclusive, on va parler d'inclusion sociale, et le problème, c'est la lutte contre les discriminations ethniques et raciales ». C'est ça que nous dit cette nouvelle définition. Elle est donc très intéressante. Et de fait, sans qu'on s'en soit bien aperçu, tellement le discours politique des gouvernements est déficient, hein, sans qu'on s'en soit bien aperçu, ils ne parlent plus d'intégration. Il ne parle plus d'intégration. On parle d'inclusion. Et on parle de discrimination. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'entende pas ces discours et que la lutte contre les discriminations ne soit pas assez mise en œuvre dans les faits. Mais de fait, on en parle quand même et on ne parle plus d'intégration. Un certain apaisement aussi concernant la laïcité. Un certain apaisement. Là, on peut dire que depuis le retour au pouvoir des socialistes, la laïcité identitaire a été récusée par le gouvernement avec un rapprochement avec la laïcité de droit. On a eu un effort d'emblée pour visibiliser la jurisprudence et le droit avec la mise en place de l'Observatoire national de la laïcité présidé par Jean-Louis Bianco, ancien ministre, qui a été pendant une dizaine d'années secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand. C'est vous dire qu'il connaît la vie politique française, il est prudent, mais il sait aussi qu'il faut sortir de ce guépier de la laïcité identitaire et qu'il faut revenir pour la paix dans la société à une version non identitaire de la laïcité, non culturelle, non substantielle, mais une laïcité de type procédural telle que la préconise l'autre droit public. Donc Jean-Louis Bianco, en éditant des guides, en éditant des vademécum sur les différents aspects de la laïcité dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales, l'entreprise a fait beaucoup pour essayer de calmer le jeu. Et c'est devant l'Observatoire de la laïcité que Najat Vallaud-Belkacem, nommée depuis le mois d'août 2014, a fait faire également à la laïcité scolaire un vrai progrès par ce discours en octobre, je crois que c'était le 20 octobre, il est en ligne, je pense, 2014, en disant « Il faut recréer du consensus national sur la laïcité, faire qu'elle cesse d'être un combat pour être d'abord un moyen ». Moyen d'apaiser la société, de faire vivre une culture de la tolérance. Je veux tendre vers une laïcité, dit-elle, qui échappe aux conflits théoriques, donc vous voyez qui ça vise, et aux passions politiques, vous voyez également qui ça vise, qui trouve sa place dans nos vies quotidiennes en étant comprise, vécue, assumée. Et elle continue, ce sont des extraits plus exactement, je continue à sortir ces lignes de son discours, qui est un grand discours. Tout ne se joue pas sur l'expression de principes ou de normes. Ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, elle dit, comme avait dit, pour éviter les débats, elle dit travailler avec la charte de la laïcité, qui n'est qu'un énoncé de principes. Tout ne se joue pas sur l'expression de principes ou de normes. Tout ne se réglera pas par des lois, des décrets ou des circulaires. Je souhaite que nous épaulions davantage les décideurs de terrain afin de faire émerger une culture pratique de la laïcité, de donner une réalité à l'idée de pédagogie de la laïcité, qui suppose de former et d'outiller les agents publics. La pédagogie de la laïcité, ce sont des pratiques porteuses de sens. C'est extrêmement important, ça. Des pratiques porteuses de sens à la fois pour l'institution et pour ses usagers, élèves, familles, partenaires associatifs et collectivités locales. Extrêmement important, hein, des pratiques porteuses de sens. Et elle développe ensuite, après 2015 notamment, l'idée de partager les valeurs et donc de trouver le sens, de faire sentir et partager le sens par tout le monde et notamment par les usagers. Dans le domaine scolaire en même temps, depuis 2012, on a des évolutions assez intéressantes, hein, et en particulier donc la loi de 2013 qui est une loi très importante. Socle commun et approche curriculaire, évaluation formative bienveillante, et puis SP, donc de nouvelles proximités pédagogiques, des transformations sont en cours. Mais on a vu le ministère reculer devant la fronde concernant la présentation de l'islam dans les programmes d'histoire. On a vu sur tel et tel point le ministère reculer par rapport à des avancées que l'on pouvait, dont on pouvait se réjouir dans la perspective de passer du collage au tissage. Et par exemple, un thème remarquable qui était dans les programmes des lycées depuis, je crois, 2008 ou 2009. Il y a des profs d'histoire dans la salle. Je crois que c'est des programmes de Born et Bernstein. Bon, ben, le thème de la Méditerranée au XIIe siècle avait sauté avec la dernière réforme du lycée. Et j'en arrive à la fin de mon exposé avec que s'est-il passé depuis 2015, que s'est-il passé depuis les attentats, en quoi a consisté la grande mobilisation pour les valeurs de la République, et elle continue encore. C'est très indicatif et bien entendu on peut développer, on pourrait discuter longuement. On peut dire que depuis les attentats, la première chose qui a frappé l'opinion publique, c'est une nouvelle peur de l'islam. Une nouvelle peur en particulier des jeunes élèves qui se sont mis à trouver encore une autre forme d'embêter le monde avec leur radicalisation et leur manie de partir en Syrie. Ça, c'est nouveau. Et c'est effectivement quelque chose qui est très très inquiétant, qui m'avait frappé quand en novembre, c'était avant les attentats de novembre 2015, j'avais eu une réunion à Paris avec les délégués laïcité, les référents laïcité des académies, des ESP et des préfectures. Et les préfectures disaient à ce moment-là aux gens des ESP qui avaient tendance à dire la laïcité exige, la laïcité a préconisé une laïcité de type néo-républicain. Et les gens des préfectures disaient, mais problème, c'est d'éduquer les élèves, c'est de faire partager les valeurs. Et on sentait très bien à quel point leur angoisse, c'était la radicalisation. En ce moment. Et la radicalisation n'était pas encore devenue l'angoisse du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'était vraiment dans les préfectures, ils savaient que les jeunes partaient, et ça ne faisait pas encore la une des médias. Et l'enjeu d'éducation à propos des valeurs de la République était déjà complètement posé, quoi, au milieu, sur la table. Cependant, malgré cette nouvelle peur de la religiosité des élèves, ce qu'on peut dire, c'est que très vite, le ministère a compris et a souligné que, et les préfectures vont dans ce même sens, la seule solution à portée de main, c'est de faire en sorte que l'école soit vraiment un lieu d'éducation aux valeurs de la République. C'est le seul endroit, maintenant qu'il n'y a plus de service militaire, ni aucun lieu commun pour s'assurer de que ces valeurs font sens, sont connues et font sens. C'est le seul endroit pour éduquer à la citoyenneté au sens fort du terme, c'est-à-dire pas au sens institutionnel du terme, je connais les institutions de la République, je connais les principes, mais véritablement se sentir partie prenante de ces institutions et de ces principes. La campagne « Faire partager les valeurs de la République » a été orientée dans ce sens-là. Si vous avez regardé comment se sont déroulés les séminaires interacadémiques dirigés par la DGESCO pour communiquer aux différentes académies les lignes de force qu'elle entendait donner à la campagne, c'était bien ça. Faire partager les valeurs, travailler réellement sur les incidents critiques, mais aussi travailler sur des activités nouvelles, des expériences nouvelles à donner aux élèves autour de ces questions de valeurs et mis en avant la notion de parcours citoyen. L'EMC qui est rentré en application à la rentrée 2015 a été, dès son annonce, extrêmement bienvenu. Ça m'a frappé. Un soulagement pour les gens, un soulagement pour les praticiens de terrain, que de voir cet EMC qui leur disait que les élèves étaient des personnes avec des sentiments et qu'avec ces sentiments, on peut faire des belles choses. Quelque part, tout se passe comme si les professeurs le savaient d'avance, mais ne s'étaient jamais autorisés à faire, avec cette sensibilité des élèves, avec cette envie de s'engager qu'ont les élèves. Et là, j'ai une professeure qui me dit, elle me raconte comment elle a fait une séquence sur la fraternité, une très très belle séquence, et elle me dit, cette nouvelle version de la laïcité, ça m'a décomplexée. Et je crois que ce mot m'a frappé parce que j'ai l'impression que ça répond au sentiment de pas mal des collègues d'être décomplexé à l'idée de pouvoir travailler avec les élèves dans leur globalité de personnes, avec leurs sentiments, leurs sensibilités. Dieu sait qu'auparavant, on n'aimait pas faire des débats. On n'aimait pas laisser parler les élèves. Tout se passe comme si maintenant, c'était devenu évident qu'il fallait entendre parler les élèves au sujet du sens qu'ils font avec les problèmes, avec les valeurs, et d'encourager le débat. Alors, comme disait ce matin Pierre Kahn, entre l'envie qu'on a de faire et puis le savoir-faire, il y a de la marge, et il y a tout un espace de travail en formation, évidemment. sur la discussion à visée philosophique, sur la discussion sur les dilemmes moraux, sur toute une série de choses, mais qui passionnent les élèves. Quand on travaille avec les élèves, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils le demandent sans arrêt. Donc, CTMC donne une, en plus de ce que donne la réforme des collèges, hein, avec le cycle 3 qui met en relation l'école et le collège, les EPI, l'évaluation nouvelle. Il y a là un vivier, un gisement d'opportunités nouvelles pour travailler autrement avec les élèves dans le sens de les laisser dire leur religiosité, puisque ça n'est pas interdit par la loi de 2004. Hein. Ils peuvent la dire, leur religiosité, même s'ils ne peuvent pas porter de signes et tenues par lesquels ils la manifestent ostensiblement. Donc, de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités ouvertes à l'action pédagogique et plus largement à l'action éducative dans les établissements scolaires. Comme effet de cela, si j'ai bien vu, hein, j'ai participé à une demi-douzaine de journées de formation avec des enseignants de terrain dans le cadre de l'équipe académique laïcité de l'académie dans laquelle je suis. Tout se passe comme si, effectivement, les enseignants étaient disposés à laisser une certaine place maintenant à la religiosité des élèves et étaient disposés à entendre que pour eux, pour une partie des élèves, l'islam a de l'importance. Mais que c'est pas pour autant qu'ils sont en lutte contre la République, au contraire. Ils sont très intéressés aussi par la laïcité, et notamment par la laïcité de protection des libertés. Mais pas du tout dans le déni du fait que ben, ça impose certaines limitations aux expressions religieuses. Donc, à mon avis, une évolution assez intéressante ces derniers temps, bien que cette année 2015 ait été épouvantable par les drames qu'elle a connus. Peut-être que, comme le disait Crozier précédemment, bien antérieurement, il faut des crises en France pour que les choses progressent. Conclusion, que conclure de cet essai de contextualisation pourquoi j'ai mis des X? Je voulais y revenir, mais j'ai oublié. Et la prise en compte des attentes de sens des élèves. D'abord, l'importance de la politisation de l'islam, l'importance de l'hystérie sur le hijab, assortie du rejet culturel et identitaire et combinée à une hostilité à l'égard de la ou des religions. Cette dimension-là reste, et vous avez vu la passe d'armes récente entre le Premier ministre et le président de l'Observatoire de la laïcité. Vous savez bien à quel point ça reste dans le contexte. La politisation de la laïcité, pour ou contre les libertés personnelles et croyants, ça reste, avec l'idée qu'il faut neutraliser les espaces publics très largement, et pas seulement les espaces scolaires. Ceci dit, l'importance de l'historicité de la laïcité au sein de l'école, c'est pas tout à fait la même histoire qu'à l'échelle politique et à l'échelle sociale. Moi, je propose l'idée qu'il y ait une historicité spécifique de cette valeur dans l'école, en relation avec l'évolution des formes pédagogiques. Il y a des problèmes avec la laïcité quand on ne sait pas enseigner autrement que de façon transmissive. Il y en a beaucoup moins quand on sait faire autre chose, et du coup, la version libérale de la laïcité devient une ressource dans ce cas-là. Sur 14 ans, ce qu'on a vu, c'est l'exacerbation des tensions politiques et en même temps une évolution à bas bruit des formes scolaires condensée par les attentats de 2015. On peut pas ignorer le fait que le décret sur la réforme des collèges, qui risquait vraiment de ne pas passer, est passé dans la foulée de l'émotion suscitée par les événements de Charlie. C'est un enfant de l'émotion produite par Charlie. Dans l'école, nouvelle importance accordée à la dimension éducation des élèves, au partage des valeurs, incluant éventuellement, et de plus en plus, je crois, l'enseignement des faits religieux, et une certaine acceptation de la religiosité des élèves, donc avec de nouvelles recherches, de nouvelles initiatives, qui sont non plus censurées ou censurables, mais vues comme souhaitables. Et ça, c'est nouveau aussi. La hiérarchie intermédiaire de l'éducation nationale s'est mise à croire à cela et s'est mise à encourager les efforts des enseignants ou des établissements dans ce sens-là. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Ce qui nous amène à conclure à une sorte d'espace scolaire, non pas sanctuarisé comme dans la doctrine néo-républicaine, mais avec sa propre historicité et une sorte de d'idéalisme spécifique qu'on ne trouve pas dans le débat médiatique et dans le contexte politique au sens large. Une sorte de volonté qui s'exprime maintenant dans la hiérarchie intermédiaire de l'école et chez les praticiens de travailler dans le sens du partage des valeurs en faisant la place au sens que portent les élèves, en entendant les élèves, en entendant la parole des élèves. Et ça, c'est vraiment quand même, à mon avis, nouveau par rapport à l'évolution de notre système scolaire et bien différent de ce qu'on entend dans le débat médiatique sur la laïcité et l'islam. Voilà, je termine là en vous proposant de discuter de ce que j'ai dit, parce que tout ça est très éminemment contestable, j'imagine.